Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui au sommaire, deux auteurs qui nous prouvent que l'imagination n'est jamais très loin de la vérité. Alors que la campagne présidentielle en France va de rebondissement en rebondissement, vient en effet de paraître un thriller politique qui justement se déroule entre les deux tours d'une élection fictive. Un roman, mais signé par deux spécialistes, Eva Joly, longtemps magistrate, députée européenne écologique, et Judith Pérignon, journaliste politique et écrivain. Un duo de choc pour un polar ambitieux, intitulé French Uranium, aux éditions des Arènes, où la Norvégienne et la Française détricotent les liens subversifs entre Paris, New York et Lagos, car selon elle, le Nigeria joue un rôle important dans le financement du gouvernement français. Réel ou imaginaire ? Ce livre, lui aussi plein de rebondissements, se lit comme un roman noir et nous plonge dans les coulisses du pouvoir. Rencontre. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour.
C'est la troisième fois que vous publiez un livre ensemble. Ici, c'est un polar qui s'inscrit dans la suite du précédent, Les yeux de Lyra. Et nous allons parler de ce nouveau livre dans un instant. Mais pour commencer, une question toute simple. Comment la juge et la journaliste que vous êtes ont eu envie un jour de mettre leur talent en commun pour écrire un roman ? Eva Joly ?
Bon, c'est une longue histoire en réalité. Nous nous sommes rencontrés par les hasards de la vie et aussi un peu professionnels de la part de Judith. Ensuite, nous avons très bien accroché et Judith a écrit avec moi un roman ou un livre assez autobiographique. Et nous avons fait pour cela des grands voyages ensemble. Nous avons remonté un peu mon enfance. Elle est venue en Norvège. Elle a vu la maison de mes grands-parents. Et voilà. Et donc, et ça fait maintenant de là, je me rends même plus compte, ça doit faire 15 ans, quoi. Et que on existe dans la vie l'une de l'autre très solidement.
Donc c'est d'abord l'histoire d'une amitié, j'ai envie de dire. Mais c'est un duo inattendu parce qu'on pourrait croire que journalisme et justice soient dans la méfiance réciproque, ou au contraire, pensez-vous, Judith Pérignon, que vous êtes dans le même élan, le même objectif, faire triompher la vérité ?
Oui, je pense que d'ailleurs les hommes politiques reprochent souvent aux juges et aux journalistes de travailler ensemble. Les gens de pouvoir reprochent beaucoup cette alliance. Alors, pour nous, moi j'ai jamais travaillé vraiment sur l'investigation, mais effectivement dans les thèmes que je porte, qui m'ont fait choisir ce métier, qui me font écrire, se recoupe effectivement avec beaucoup des engagements autour desquels Eva a construit sa vie. Et moi, en rencontrant Eva, elle m'a fourni beaucoup de clés sur le fonctionnement du monde, sur des questions que je me posais après 8 ans de journalisme politique que j'avais mis derrière moi. Et en travaillant avec Eva, j'avais l'impression de poursuivre en tout cas ces questions, ces réponses que je cherchais, et ce rôle qu'un journaliste d'éclairer les autres. Ouais.
Alors comment ça fonctionne ? Parce que là, il ne s'agit pas d'un essai, il ne s'agit pas d'un livre d'entretien, il s'agit vraiment d'un roman, donc avec une structure narrative, avec des personnages, avec un fond très fort. Qui apporte l'idée ? Qui écrit ? Est-ce que c'est plus diffus que ça d'ailleurs ?
Bon, moi, mon travail, c'est d'écrire. Hein. Maintenant, en plus, je suis autant romancière que journaliste. D'ailleurs, quand on s'est mis au premier, c'était moi, j'étais en train de me mettre à la fiction. Eva était une grande lectrice de polar, donc quelque part, elle rêvait peut-être d'apporter toute sa connaissance et de verser toutes ses connaissances à ce qu'est un polar. Donc, on discute. On a vraiment élaboré les personnages ensemble. Les trois héros de celui-là sont les mêmes que dans le premier, qui sont très inspirés de situations qu'a pu croiser Eva. Et moi, j'apporte aussi, on traverse les allées du pouvoir, il y a une rédaction, il y a des journalistes, il y a les doutes d'un journaliste, j'apporte aussi de mon vécu. Et donc, on tisse ça ensemble oralement. Après, moi, je me mets à écrire, j'envoie à Eva, qui réagit, et voilà, et c'est ce va-et-vient.
Je détends une magnifique plume, et des images sublimes, souvent, je trouve. Donc, mais c'est vrai que nous avons créé un univers un peu à nous, dans lequel vivent vraiment le personnage. Et on discute de leur avenir. Et lorsque Juliette a tué...
Dis pas trop de choses. Ne dis pas trop de choses.
Non, c'est vrai. Eva. Non, mais je veux dire, nous avons des émotions très fortes avec nos personnages. Ils vivent vraiment. Judith, avec sa grande expérience des rédactions, des relations humaines, et moi, avec mon expérience d'enquêtrice, mais aussi d'envoyer du gouvernement norvégien pour essayer de lutter contre la corruption et le blanchiment en Afrique, les rencontres que j'y ai faites, les personnages incroyables parfois, et je pense que nous avons eu toutes les deux beaucoup de bonheur à créer un héros nigérian.
Alors justement, on va rentrer dans ce nouveau roman French Uranium qui se déroule au moment des élections présidentielles en France, sans qu'aucune date précise ne soit indiquée. Et le soir du premier tour, je ne dévoile rien, c'est la première scène, un ministre se suicide. Ce qui va déclencher très rapidement toute une série d'interrogations concernant cette mort peut-être suspecte, en tout cas dérangeante, et dont on va très vite se rendre compte qu'elle est liée à des affaires politico-économiques, pour ne pas dire mafieuses, entre la France et le Nigeria. Pourquoi le Nigeria? Pourquoi ce pays en particulier? Eva Joly?
Ça, ce n'est pas un hasard. Donc, pour la Norvège, j'ai travaillé au Nigeria et j'ai travaillé avec ce qu'on peut appeler la brigade financière nigériane. J'étais très impressionnée par la volonté de beaucoup de personnes dans cette brigade de vraiment engager la lutte contre la corruption. Et le modèle de Nwanko, vraiment, il avait mis en examen des dizaines de gouverneurs nigérians, il avait confisqué des milliards de dollars, mais il a été arrêté dans son élan. Et ça, pour moi, ça a été insupportable, parce que longtemps j'ai cru que la solution allait venir d'eux, parce que c'est le pays en développement, le premier victime de la corruption et le comportement des multinationales sur place. Et de voir que c'était pas possible et qu'il a été arrêté par des moyens violents dont nous nous sommes inspirés aussi dans ce roman, il me semblait que ça avait un très fort potentiel dramatique et ça en dit aussi beaucoup sur la réalité de notre monde.
Oui, parce qu'il y a à la fois une forme d'injustice de ces personnes, comme vous dites, qui luttent dans l'ombre et aussi une forme d'indifférence à leur égard. Vous écrivez, alors je sais pas si c'est l'une ou l'autre, mais ouvrez les guillemets, l'Afrique, personne n'y comprend rien et tout le monde s'en fout. Donc, il y a aussi une volonté, Judith Pérignon, de mettre en lumière des choses réelles et qui, à Paris, ne font pas forcément la une des journaux.
Oui, par exemple, bon, c'est vrai, nous, on est au Nigeria avec Nwanko parce que Nwanko était là au premier tome.
Mais donc, il faut rappeler que c'est un agent de la brigade financière.
Voilà, c'était le patron de la brigade financière nigériane qui, là, va revenir dans son pays après l'avoir fui.
Donc, inspiré d'une personne réelle.
Voilà, d'une personne réelle au Nigeria. Mais le Niger, c'est le Niger qui a fourni, par exemple, l'uranium à la France. Il y a une histoire incroyable entre la France et le Niger qui s'est passée ces dernières années quand Areva refusait de payer ses impôts au Niger, dont on sait que c'est un des pays les plus pauvre d'Afrique, qui a fourni des contingents de soldats aux armées terroristes islamistes. Et si les Français savaient que parce que la France, puisque le Areva, c'est public, refuse de payer ses impôts normalement, un pays dont on extrait vraiment les ressources, un pays pauvre, que si on payait nos impôts, peut-être la population serait moins pauvre et donc fournirait moins de terroristes. Pourquoi ces choses-là, c'est pas expliqué vraiment c'est dans certains journaux, j'imagine que c'est sur RFI, mais ça ne fera jamais, jamais la une d'un grand journal télé. Et que les gens comprennent, et moi il y a une phrase qui est importante pour moi dans ce livre, on est dans le jardin du Luxembourg, ce jardin à la française, ces quartiers bourgeois, très jolis, très calmes. Et une phrase qui m'est venue comme ça, mais le calme de ce jardin ne tient que par la violence qui se pratique ailleurs. C'est-à-dire que le calme que nous vivons à peu près, hein, puisque nos sociétés finissent par aussi être secouées, tient par cette violence, par cette sauvagerie du marché que notre État, que nos gouvernements laissent faire. Et donc le livre, il se balade comme ça entre l'Afrique et les beaux quartiers parisiens. Et tout ça est intimement lié et il faudrait que les gens le comprennent.
Oui, avec cet enjeu quand même financier considérable, puisque vous racontez dans le roman que ces mines d'uranium sont exploitées par la France et cette exploitation permet de financer ici la campagne présidentielle. Fiction ou pas, Eva Joly?
Il permet de financer des personnalités de la vie publique. Il ne faut pas croire que c'est uniquement la campagne électorale. C'est des vols des ressources africaines qui servent aussi à financer le train de vie des personnages. Et ce qui est très fort, je pense, dans notre roman, c'est de voir que le véritable mobile de beaucoup des engagements et de beaucoup de scènes, c'est tout simplement ça, c'est l'argent. Et qu'il n'y a pas de limite. Et que là, on tue en masse pour avoir accès et aux ressources et aux revenus qui en découlent.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur Radio France Internationale, en compagnie aujourd'hui d'Eva Joly et Judith Pérignon, qui publient ensemble French Uranium, un roman noir, un polar, un thriller aux éditions des Arènes. On l'a vu précédemment dans cet entretien, c'est un livre qui jette un pont entre Paris et Lagos. Et c'est vrai que vous construisez un thriller qui met en scène au moins une vingtaine de personnages, mais j'ai envie de rester sur quatre d'entre eux, parce que on est dans ces 15 jours entre les deux tours de l'élection présidentielle, dans une espèce de course contre la montre. Donc il y a la fille du ministre qui s'est peut-être ou pas suicidée et qui, elle, ne croit pas du tout à cette version, d'autant plus que son propre frère a déjà trouvé la mort dans un accident de moto, lui aussi tout à fait suspect. Il y a un avocat qui vit d'ailleurs avec un journaliste, lui aussi, qui a une part importante dans cette histoire, une activiste russe, Lyra, et ce policier de la brigade financière de Lagos, qu'on a déjà évoqué. Que représentent ces quatre personnages pour vous, Judith Pérignon?
Donc, les au moins trois d'entre eux, donc Noanko, Lyra, la journaliste russe, et Félix, qui était greffier dans le premier, qui est avocat maintenant. Pour nous, ces trois personnages, c'était des gens qui avaient des métiers qui leur permettaient d'agir. Lyra était journaliste en Russie, Félix était greffier, et Noanko était le patron de la brigade financière. Et tous les trois se rendaient compte qu'avec leurs outils, dans le système, ils n'y arrivaient plus, parce que le système était bloqué. Le système, à un moment, allait les empêcher d'aller au bout de leur travail de vérité. Et donc, dans le premier tome, déjà, il faut qu'ils sortent du système, qu'ils deviennent hors la loi pour avancer. Donc, ils affrontent presque les gens avec lesquels ils ont travaillé.
Oui, ils se mettent en marge. Eux-mêmes sont poursuivis par la police. C'est pour ça que
Exactement.
Je parlais de course contre la montre. Hein.
Exactement.
Il y a kidnapping, il y a menace, il y a violence. On est dans un vrai polar. Hein.
Voilà, et c'est là qu'ils ont dû sortir de leur propre, du système pour agir. Et donc là, ils reviennent 4 ou 5 ans après, et ils sont rejoints par Noémie, qui est la fille. Effectivement, elle est médecin. C'est un grand pédiatre de l'hôpital Necker. Elle aussi, elle a grandi justement dans ce jardin du Luxembourg. A priori, la vie, tout lui a souri. Et elle comprend que cette enfance heureuse, ce milieu qui l'a protégée, est plein de mensonges. Donc elle aussi, il va falloir qu'elle sorte de son milieu, qu'elle sorte de ses gonds en fait. Tous nos personnages sont sortis de leurs gonds pour aller au bout de la vérité.
Alors c'est une charge contre la corruption, contre les banques, contre les abus de pouvoir, contre les collusions politiques. Et face à ça, vous écrivez, si la justice était un animal, elle serait un escargot. Donc ça veut dire quoi, Eva Joly? Comme la justice ne peut pas aller aussi vite qu'elle le pourrait, et vous êtes bien placée pour le savoir, que d'un seul coup, la fiction, paradoxalement, vient apporter une forme de vérité et une forme, d'éclaircissement sur des affaires auxquelles on n'a pas accès parce que on est bloqué par la lenteur du système. Eva Joly.
C'est vrai que la justice en France, et plus généralement dans les pays latins, est très lente pour beaucoup de raisons, mais l'essentiel des raisons, c'est l'absence de ressources. Pour une affaire financière, il faut 6-7 ans. Donc, pendant toute la durée de l'instruction, les hommes politiques restent en place, ce qui est assez insupportable. Et là, nous avons une absence de culture juridique en France pour les politiques qui est choquante, n'est-ce pas? On nie l'évidence et l'actualité nous l'illustre bien. C'est pas parce que les faits sont sur la table que les hommes politiques vont dire « ça y est, je suis prise, je m'arrête ». Non, ils continuent.
Ça, c'est choquant, non, par rapport à d'autres pays européens où les hommes politiques et les femmes politiques, on a eu un exemple récemment, démissionnent dès qu'il y a une ambiguïté et un manque de transparence.
Il y a une exigence d'exemplarité. Si on est pris, on démissionne dans beaucoup de pays. Et non pas en France, qui complique encore le jeu et participe, je pense, au dégoût de la population pour beaucoup d'hommes et femmes politiques.
Alors justement, je voudrais parler de
Lyra. On l'a déjà évoqué dans le roman précédent, c'était une journaliste russe et qui a été agressée à Londres, si mes souvenirs sont bons, avec de l'acide. Et évidemment, elle est devenue aveugle, mais sa cécité ne l'empêche pas de continuer de protester à travers un blog. Et je me disais, est-ce que justement maintenant le blog, voire le roman et la littérature, sont devenus des nouveaux lanceurs d'alerte, Judith Pérignon?
Oui, nos personnages, Lyra est devenue une lanceuse d'alerte et on avait eu un débat justement sur la fin du premier, savoir si elle perdait vraiment la vue de manière irrémédiable. Et moi, j'avais envie d'aller au bout, quoi. Vraiment, elle est dans le noir, elle ne voit plus.
Enfin, elle est dans le noir et en même temps, elle est lucide. Elle voit plus que les autres.
Bien sûr, puisqu'elle est à l'intérieur d'elle-même.
Ouais.
Et elle est complètement connectée avec vous voyez, son ordinateur est branché avec une voix, détecteur vocal, enfin, qui lui lit un logiciel, voilà, qui lui lit tout ce qui arrive en russe. Enfin, on imagine son appartement est un petit HLM de réfugiés politiques où elle est envahie par des voix qui lui arrivent. Son ordinateur lui parle et lui raconte le monde. Et elle écrit, elle répond. Et c'est par elle que vont passer les révélations dans ce livre. Et effectivement, elle va devoir fuir parce que on va chercher d'où elle parle. Elle est complètement anonyme sur. Elle utilise ces mêmes.
Le net profond.
Ouais. Voilà, le net profond. On n'est pas localisable, mais il va falloir fuir. Va falloir. Et ça, on voit bien aujourd'hui que c'est un outil que les pouvoirs n'arrivent pas à contrôler. On voit avec Assange, on voit avec Snowden, on voit à quel point ces gens-là sont devenus importants, en danger, puissants aussi d'une certaine manière, et que ça ne va qu'aller qu'en se développant.
Et donc le roman aussi, lanceur d'alerte ?
Bien sûr, et le roman est obligé de se saisir, et ça c'est compliqué, parce que le roman est obligé de se saisir de la technologie, à laquelle moi je ne maîtrise rien, je ne comprends rien, ni au flux d'argent, ni au...
Voilà. Mais Eva Jolie est là pour vous aider.
Voilà, mais souvent Eva, je la rappelle, je lui ai combien de zéros déjà, parce qu'elle peut m'expliquer un truc, et j'ai déjà oublié, j'étais nulle en maths, j'étais nulle en sciences, j'étais plutôt une littéraire, donc voilà pourquoi j'écris, mais du coup, le roman, notamment le polar, est obligé de se saisir de ces technologies, des écoutes, d'internet...
Du cryptage.
Et en même temps, faut pas que ce soit chiant, faut qu'on comprenne.
Ouais.
Donc, comme moi, je dois faire l'effort de comprendre, j'essaie de le rendre très lisible aux gens. Et c'est très amusant, mais c'est pas facile.
Alors, on l'a appris tout à l'heure, Eva Jolie, donc vous êtes fan de romans policiers. Alors, j'imagine que vous êtes une lectrice de Jonas Bø, votre concitoyen écrivain norvégien qui publie de magnifiques romans noirs. Ouais. Mais alors, ici, par exemple, donc c'est un vrai roman noir, il y a beaucoup de morts, pour parler trivialement, ça tombe un peu comme des mouches. Mais alors, ce sont des morts un peu ciblées, parce que ce sont des morts... plutôt dans le gouvernement. Je me disais, est-ce qu'il y a eu une jubilation de votre part, Eva Jolie, de faire mourir des gens de pouvoir, des ministres?
Non, je pense que chaque mort est nécessaire et chaque mort illustre souvent une férocité. Il n'y a pas de limite. Le sentiment n'existe pas vraiment.
Non, il y a beaucoup de cynisme, en revanche.
Cynisme, c'est le mot, oui.
Et dans l'idée, dans cette famille, il y a donc cette famille du ministre, le ministre qui se suicide au début, on va finalement rentrer dans l'histoire familiale. Mmh. Et effectivement, il ne s'est pas remis de la mort de son fils, enfin, on ne va pas donner les clés du chose, mais il y a quelque part que ces gens qui défendent un monde qu'ils veulent confortable même pour leurs propres enfants, alors que beaucoup d'autres enfants vont mourir, ce qui ne les intéresse pas, finalement, ça va finir par atteindre leurs propres enfants. Mmh. Les générations d'après, de ces gens, de cette bourgeoisie parisienne, classique, protégée, finalement vont grandir et peut-être mourir dans un monde de plus en plus fragile, parce que les parents, les gens d'État, ne sont pas en train de construire un monde qui est solide pour nos enfants. Et donc leurs propres enfants vont mourir. Et c'est là qu'ils se réveillent enfin, alors que beaucoup d'enfants ailleurs, très loin, sont morts.
On décrit un monde sans valeur, justement. Et c'est la confrérie des hommes qui n'ont pas vu grandir leurs enfants, comme le dit si joliment Judith.
Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
Je rappelle le titre de ce roman, French Uranium, signé donc Eva Jolie et Judith Pérignon, et qui apparaît aux éditions Les Arènes.
Merci.
Idée. Marie-Madeleine.